Nous avons commencé pour, je pense, un certain nombre d'entre vous qui étaient déjà là, soit avant-hier, soit hier, à vivre ce temps de retraite. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas si c'est le cas, vous n'avez pas manqué des étapes qui étaient essentielles pour suivre ce que nous allons vivre aujourd'hui. Hier, nous avons beaucoup cheminé avec Jésus dans sa passion. C'était le Vendredi Saint. Nous avons été invités par Jésus à aller jusqu'au bout du don de notre vie. Chacun à notre manière, nous avons pu le vivre, soit que nous étions là hier, soit que nous l'avons vécu d'une autre manière. Aujourd'hui, ce que nous allons vivre est peut-être un petit peu différent. En ce samedi saint, nous vivons un moment un petit peu intermédiaire. Jésus est mort. Jésus a été déposé au tombeau. Jésus n'est pas encore ressuscité. Et nous vivons ce temps de l'attente, ce temps de la confiance, ce temps de l'espérance. Et ces trois mots, peut-être attente, confiance, espérance, pourront nous guider aujourd'hui. Et si Jésus dort dans son tombeau, si Jésus semble peut-être d'une certaine manière absent, nous ne sommes pas tout seuls pour autant. Et comme nous en avons certainement l'habitude, en tout cas c'est la tradition de l'Église, le samedi nous pouvons faire mémoire d'une manière particulière de la Vierge Marie. Le samedi saint est un jour particulier peut-être où cette attente, cette confiance, cette espérance peuvent être vécues avec Marie, avec la Vierge Marie. Alors, l'Évangile ne nous dit rien de ce qui s'est passé pour la Vierge Marie entre le moment où Jésus a été crucifié, puisque nous avons entendu hier que Jésus lui adressait ces paroles, Femme, voici ton fils. Donc entre ce moment où Jésus est crucifié et ce moment après la résurrection, où Marie est avec les apôtres au Cénacle dans l'attente de l'Esprit Saint. Les évangiles donc ne nous disent rien, mais lorsque les évangiles ne nous disent pas grand-chose, c'est peut-être justement pour que nous-mêmes, nous puissions faire notre chemin personnel, que nous puissions nous-mêmes nous poser cette question. Comment Marie a vécu ces temps entre la crucifixion et la Pentecôte? Où était Marie au moment où Jésus a été descendu de sa croix, au moment où Jésus a été enseveli? Où était Marie le samedi saint? Où était Marie au matin de Pâques? Il y a certaines traditions qui nous disent que on a remis le corps de Jésus à la Vierge Marie. Il y a certaines traditions qui nous disent aussi qu'il y a eu une première apparition qui n'a pas été relatée dans les évangiles à Marie. C'est possible. On ne le saura pas avec certitude, du moins tant que nous sommes ici. Mais nous pouvons en tout cas le méditer, l'imaginer, comprendre, saisir que certainement Marie n'a pas été étrangère à tout ce qui s'est passé pendant ces heures, pendant ces jours, entre la crucifixion de Jésus et la Pentecôte. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que nous pourrons vivre. Alors, pour tout vous avouer, j'avais imaginé méditer sur ce verset des Actes des Apôtres, dans lequel nous voyons Marie qui est avec les disciples dans l'attente de l'Esprit Saint, en Actes 1, 14, mais en repréparant hier et en méditant là-dessus, comme cette espèce d'intuition, parole ou motion intérieure, Seigneur qui me disait, non, il faut méditer sur l'Annonciation. Alors je me suis dit à un moment, mais enfin, c'est pas le bon temps liturgique, franchement, méditer sur l'Annonciation au moment où nous sommes entre la mort et la résurrection de Jésus, c'est repartir de la fin de l'Évangile pour revenir au début. Est-ce que c'est une bonne chose? Et en fait, je crois que oui. Je crois que oui, parce que le mystère de l'Annonciation a en fait beaucoup d'écho avec ce que nous vivons maintenant. D'ailleurs, c'est à peu près ce que saint Luc a fait. Vous voyez, ça tombe même assez bien pour ceux qui suivent la retraite depuis le début. Nous avons commencé avec saint Jean jeudi soir, nous avons été un peu avec saint Marc hier matin, saint Matthieu hier après-midi, donc il fallait bien passer par saint Luc, sinon il allait être jaloux. Et saint Luc, vous le savez peut-être, n'a pas écrit que l'évangile de saint Luc, il a aussi écrit les actes des apôtres. Et en fait, vous voyez, il nous a montré, en gros, c'est la vie de Jésus, la vie de l'Église. Et si vous regardez le début de l'évangile de saint Luc et le début des actes des apôtres, le début de la vie de Jésus, le début de la vie de l'Église, vous verrez qu'il y a plusieurs points communs. Par exemple, il y a la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui vient sur Marie, qui vient sur Élisabeth, qui vient sur Siméon au début de l'évangile de saint Luc. L'Esprit Saint qui vient sur les apôtres au début de l'Église, au début des actes des apôtres. Et un autre point commun, c'est que au début de l'Évangile, nous avons la Vierge Marie qui reçoit l'annonce de l'ange. Au début des actes des apôtres, nous avons de nouveau la Vierge Marie qui est là au moment de la naissance de l'Église. Alors c'est pour ça que Marie peut nous accompagner et je ferai quelques échos du coup entre ce que Marie vit au début de l'Évangile dans l'attente de la naissance de Jésus, et ce que nous vivons, nous aussi, aujourd'hui, dans l'attente de la vie de Jésus qui sort du tombeau. Et je termine cette introduction peut-être simplement en évoquant cette espèce de parallèle de situation que les pères de l'Église déjà ont noté. Marie, à l'Annonciation, est celle qui reçoit Jésus dans son corps et qui va, par l'enfantement, mettre Jésus au monde. Aujourd'hui, ce n'est plus dans le corps de Marie que Jésus est déposé, c'est dans ce tombeau. Et les mots grecs pour dire corps et tombeau sont presque les mêmes. Soma, le corps, Séma, le tombeau. Jésus a été déposé dans ce tombeau à la fin de sa vie, de la même manière qu'il avait été déposé dans le sein de Marie, dans le corps de Marie, au début de sa vie. Et nous nous attendons, nous nous préparons, dans quelques heures maintenant, à voir Jésus sortir de ce tombeau comme il est sorti du corps de Marie. Nous nous préparons à voir la vie jaillir de ceux qui semblaient morts, comme au début de l'Évangile, la vie a jailli du corps de Marie. Jésus a été rendu présent à notre monde par le mystère de Noël. Alors, je médite donc, après cette introduction, sur l'Évangile de saint Luc, l'Annonciation, au chapitre 1, versets 26 à 38. Je donnerai quelques clés de lecture, comme je l'ai fait hier ou avant-hier, et ensuite je vous proposerai 5 attitudes qui peuvent nous guider au long de cette journée. Dans saint Luc, au chapitre 1, versets 26 à 38. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Il y aurait évidemment énormément de choses à dire sur ce passage qui est d'une densité exceptionnelle. Je retiendrai simplement quelques petites remarques. D'abord, une invitation générale. Je l'évoquais déjà un petit peu hier dans les textes que je méditais, à imaginer vraiment cette scène. Parfois, lorsque nous prions, lorsque nous imaginons Marie, nous en faisons très vite une icône ou un personnage un petit peu idéal. Marie, la toute pure, l'Immaculée Conception, un petit peu faite distante de nous. C'est vrai qu'elle est la toute pure, c'est vrai qu'elle est l'Immaculée Conception. Mais s'il vous plaît, imaginez une petite jeune fille qui ressemble à toutes les autres jeunes filles. Marie, c'est une jeune femme, ici, qui est une jeune fiancée, qui ne doit pas être très vieille. La coutume en Israël était de vivre cette première étape du mariage dans laquelle se trouve Marie vers l'âge de 12 ans. Marie a peut-être 12 ou 13 ans. Et c'est une petite fille, une jeune femme, c'est plus une petite, elle est en âge d'enfanter, mais toute jeune en âge d'enfanter, et qui vit quelque chose de très humain, même de très très concret, puisque cette annonciation va être le moment à partir duquel elle va être enceinte, ce qui est évidemment pour une jeune femme un moment de bouleversant à tout point de vue physique, au point de vue psychologique, au point de vue des émotions, au point de vue spirituel. Marie va vivre toute cette aventure, cette immense aventure, mais elle la vit comme une jeune femme. Elle la vit d'une manière... Elle vit d'une manière ordinaire, quelque chose d'extraordinaire. Alors, s'il vous plaît, priez Marie, mais priez Marie comme une femme. Comme une femme qui nous ressemble beaucoup plus que ce que nous concevons parfois. Comme Jésus, elle ne nous ressemble pas par le péché, puisqu'elle n'a pas péché. Mais pour tout le reste, elle a pu vivre ce que nous vivons. Elle a vécu le même type de difficultés, d'épreuves, de joies, que ceux que nous pouvons vivre nous aussi, à notre manière. Il ne faudrait d'ailleurs pas imaginer que la vie de Marie a été simple, facile. J'aime bien imaginer l'angoisse de Marie lorsqu'elle a perdu Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une maman quand on a perdu son enfant depuis 3 jours ? Ou pire que ça, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Marie quand elle s'aperçoit qu'elle a perdu le Fils de Dieu? Vous imaginez ce qui peut se passer dans le cœur? Déjà, si c'était mon enfant, c'est quand même pas terrible. Mais en plus, c'est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il va en penser là-haut? Marie n'a pas péché, mais Marie est une femme. Et voyez, pour nous aider à avancer dans notre relation avec le Seigneur, de passer par Marie, de s'appuyer sur Marie, parce qu'elle nous ressemble, est un puissant soutien. Ce que nous pouvons souligner aussi dans l'attitude de Marie ici, c'est sa disponibilité et son attente. L'annonce de l'ange était quand même très surprenante. Marie avait ses projets. Hier, j'ai parlé un petit peu des projets. Marie aussi, elle avait ses projets. Marie, elle était tout occupée à faire le plan de table pour son mariage. Non, peut-être pas le plan de table. Mais elle était en train de préparer la célébration du mariage. Elle était même sûrement très enthousiaste de se marier avec Joseph, qui était sans doute le plus beau garçon de Nazareth, quand même. C'est moi qui rajoute. Mais c'est vrai, Joseph, c'était un garçon bien. D'ailleurs, la suite l'a montré. En plus, un fils de David. La classe. Ça veut dire aussi que peut-être Marie, elle, quand on se marie avec un fils de David, on pouvait cogiter un petit peu. Moi, j'imagine qu'une jeune femme qui se marie avec un fils de David, elle a un petit peu le secret espoir qu'elle pourrait être la mère du Messie, puisqu'on nous a dit que le Messie, ce serait un fils de David. Marie, elle est certainement à l'enthousiasme de ce qu'elle va vivre avec Joseph. Est-ce que le projet de l'ange confirme pleinement ce projet qu'elle avait ? Oh, il faudra attendre l'annonce à Joseph pour ça. Il faudra attendre que l'ange passe par Joseph pour lui dire « Oui, oui, tu vas prendre Marie, ton épouse. » Mais vous voyez bien que l'ange ne dit pas à Marie « Eh bien oui, continue, fais ton mariage avec Joseph comme c'était prévu au départ. » L'ange vient bouleverser, vient comme surélever les projets, les espoirs, les attentes de la Vierge Marie. Et ce que nous pouvons voir, c'est que Marie a une vraie disponibilité, un vrai accueil. Marie n'est pas inquiète de ce que l'ange vient lui dire. Elle pose des questions, j'en reparlerai, mais elle a comme cette ouverture. Au fond, on a presque l'impression que l'annonce de l'ange ne la surprend pas tant que ça. Et le oui qu'elle dit à la fin, « Qu'il me soit fait selon ta parole », bien comme couronner toute cette disponibilité, cet accueil de Marie à la venue de Dieu dans sa vie. Pour commenter encore ce passage, il nous faut souligner la nouveauté de ce qui se passe. Cette nouveauté, elle est d'autant plus frappante si on lit le passage précédent. Dans le passage précédent, que je ne vous relirai pas, mais que vous connaissez sans doute, c'était déjà l'ange Gabriel qui était apparu à Zacharie, dans le temple de Jérusalem, pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste à ce couple de Zacharie et Élisabeth, couple âgé, pieux, juste et stérile. Mais pour le coup, Zacharie et Élisabeth, lorsqu'on connaît un petit peu l'Ancien Testament, ce n'était pas un récit très surprenant. Des couples pieux, justes, vieux et stériles, dans l'Ancien Testament, nous en avions déjà eu plusieurs. L'exemple le plus typique, c'était Abraham et Sarah. Et qu'est-ce qui leur était arrivé? Ils avaient des messagers, des anges, qui était venu leur annoncer la naissance d'un enfant. Et effectivement, cette annonce était réalisée. Donc, lorsque nous commençons à lire l'évangile de Luc, puisque c'est la toute première scène de l'évangile de Luc, et que nous lisons l'annonce à Zacharie, nous ne sommes pas très surpris. C'est beau, bien sûr, mais ce n'est pas très surprenant. C'est un récit qui, pour utiliser un langage un peu moderne, c'est un peu un copier-coller de choses que nous avons dans l'Ancien Testament. Lorsque nous arrivons au récit suivant de l'annonce à Marie, en fait, nous devrions être tout surpris de voir l'ange Gabriel qui apparaît à une femme. Jusque-là, ça va. Mais qui est jeune et qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas stérile. Comment ça se fait ? D'habitude, un ange, il est là pour annoncer une naissance dans une situation impossible. Pourquoi est-ce que l'ange a besoin d'apparaître à une jeune femme, en plus qui est mariée, enfin qui est en train d'être mariée ? Normalement, ce n'est pas à ces femmes-là qu'on annonce qu'un enfant va naître. Alors, voyez, nous, comme lecteurs, on devrait être un petit peu chatouillés. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose de nouveau. Ce n'est pas comme on avait l'habitude. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. C'est la première fois dans toute la Bible que l'ange apparaît à une jeune femme. Et pour lui annoncer aussi quelque chose de nouveau. Aux autres femmes ou hommes, ça dépend, dans l'Ancien Testament, on annonçait quelqu'un qui allait avoir une mission particulière. Là, l'ange dit à Marie, « Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Waouh ! Est-ce que c'est possible, ça ? Il y a quelque chose d'inattendu, d'inouï. Dans l'annonce de l'ange Gabriel, il y a des choses qui ressemblent à ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, mais il y a aussi l'ouverture vers quelque chose de nouveau. Et de fait, la venue de Jésus sera à la fois quelque chose qui se situe dans la suite de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Jésus, par beaucoup d'aspects, ressemblera aux prophètes, aux rois de l'Ancien Testament. Mais Jésus aussi, à l'intérieur de cette continuité, nous apportera la nouveauté du salut. Jésus accomplira, mais dépassera toutes ses attentes, toutes ses promesses de l'Ancien Testament. Et Marie est celle dans laquelle va se passer comme ce passage de la continuité, de l'accomplissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament à la nouveauté du salut qui est apporté par la personne de Jésus. Marie est celle qui accueille comme tout le bien qui s'est fait dans l'Ancien Testament pour le porter à son incandescence dans la personne de Jésus qui vient dépasser tout ce qui a été donné jusque-là. Dans le cœur de Marie, dans le corps de Marie, s'accomplit tout cela. Et enfin, dernière remarque sur l'annonce de l'ange Gabriel à Marie. Je trouve beau aussi, et il me semble important de souligner l'attitude très, très concrète et très engagée de Marie. Nous avons presque l'impression que Marie, elle discute presque d'égal à égal avec l'ange. Ah oui, bon, d'accord, ce que tu me dis, c'est très intéressant. Mais enfin, il va aussi falloir que tu me dises comment ça va se faire. Bon, d'accord, très bien, Gabriel, tu m'as dit ça. Alors, est-ce que je suis d'accord ? Oui, je suis d'accord. Vous voyez, il y a comme un partenariat entre l'ange Gabriel, qui est quand même pas n'importe qui, l'archange Gabriel, et cette petite bonne femme, eh bien, qui s'engage vraiment. Vous voyez, Marie, c'est pas si je le dis un peu vite, c'est pas cette gentille jeune femme qui fait de la couture à la maison et qui est bien obéissante. Parfois, on l'imagine un peu comme ça. Non, il y en a qui sourient et qui rigolent, mais... C'est vrai, parfois, on l'imagine un peu comme ça. Marie, elle a du répondant. Oh, je résiste pas. Quelques versets plus tard, Marie se trouve chez Élisabeth. Et Élisabeth, la cousine de Marie, salue Marie en lui disant ce que vous dites peut-être, j'imagine, tous les jours. Tu es bénie entre toutes les femmes. Quand on dit « Je vous salue Marie », en fait, on reprend la salutation d'Élisabeth à Marie. On reprend aussi un bout des paroles de l'ange Gabriel. « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Est-ce que vous savez que cette phrase « Tu es bénie entre toutes les femmes », ce n'est pas Élisabeth qui l'a inventée? C'est une phrase qui vient de l'Ancien Testament. Il y a deux femmes de l'Ancien Testament qui ont été saluées avec cette phrase « Tu es bénie entre toutes les femmes. » Vous savez? Oh là, bon. Alors attention, je vais vous dire, et puis là, il y en a la moitié qui vont me dire, oups, ça je connais pas. Alors les deux femmes de l'Ancien Testament qui sont bénies entre toutes les femmes, c'est Yaël, là, c'est qui celle-là? Et Judith. Alors là, il y en a qui respirent en disant, ah oui, celle-là quand même, ça me dit quelque chose. Bon, alors Yaël, vous pourrez lire son histoire dans les chapitres 4 et 5 du livre des Juges. Oh là, il y avait un livre des Juges dans l'Ancien Testament. Eh bien oui, c'est le numéro 7 dans la Bible, plutôt au début. Bon, et Yaël, quand est-ce qu'on lui dit « Tu es bénie entre toutes les femmes » quand elle vient de prendre un pieu de sa tante et qu'elle vient avec un bon maillet de transpercer le général ennemi à travers la tempe, et le clouer en terre et le tuer par la même occasion. Voilà. Et donc les Israélites, quand ils voient que Yaël a triomphé du général ennemi, ils lui disent « Béni es-tu, Yaël, entre toutes les femmes ». Et Judith, quand est-ce qu'on lui dit « Tu es béni entre toutes les femmes » quand elle revient du camp des Assyriens en tenant dans la main la tête d'Holoferne, le grand méchant général ennemi, qu'elle vient de décapiter d'une manière que vous irez lire dans le livre de Judith. C'est les histoires sympathiques et un petit peu musclées de l'Ancien Testament. Alors, si je vous évoque juste ces deux figures, c'est aussi pour prendre la mesure de la consistance de Marie. Oh, j'irai pas, peut-être pas jusqu'à dire que Marie, c'est une guerrière, encore que c'est elle qui triomphe du démon. Marie, c'est une femme qui en veut. C'est une femme qui est active. Avec l'ange, on le voit, c'est une femme qui a toute sa consistance. Bon, voilà pour quelques remarques sur l'Annonciation. Je ne sais pas si je vous aurais donné peut-être quelques clés, au moins pour essayer de voir la Vierge Marie de manière humaine. Parce que c'est comme ça qu'elle nous aide. Alors maintenant, donc, cinq attitudes qui peuvent nous aider aujourd'hui, dans ce samedi saint, à suivre Jésus, doux et humble, dans l'attente avec la Vierge Marie. Et je vous évoquais tout à l'heure ces mots, attente, confiance, espérance, quelques mots que je reprendrai peut-être, mais d'abord justement le mot de l'attente. Marie est certainement une femme de l'attente. Celle qui est son maman, vous le savez bien, mais à partir du moment où on sait qu'on porte un enfant, eh bien commence cette phase de l'attente. On sait que cet enfant va venir. On s'y prépare. Ça bouleverse un certain nombre de choses. Eh bien, au fond, c'est ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. C'est pas franchement un scoop. Ce soir, Jésus va ressusciter. Ça sert à rien de faire semblant de ne pas le savoir. Vous n'aurez pas d'excuses si ce soir vous dites « Non, j'ai pas pu préparer la fête de Pâques parce que je m'y attendais pas ». C'est pas vrai. Nous savons que nous allons célébrer dans quelques heures maintenant la résurrection de Jésus. Et donc, nous avons à l'attendre. Attendre, enfin, nous attendons parce que nous savons qu'il va se passer quelque chose. Si nous ne savons pas ce qui va arriver tout à l'heure, ne nous y attendons pas. Attendre, c'est tendre vers. Il va se passer quelque chose. La maman, elle sait qu'elle va mettre au monde un enfant. Est-ce qu'elle sait comment sera cet enfant ? Est-ce qu'elle sait comment la croissance de cet enfant, son éducation va se passer ? Probablement pas. Elle a peut-être quelques pressentiments, quelques espoirs, etc. La maman, comme la Vierge Marie, elle sait, elle attend la venue de celui qui va venir, sans pour autant savoir ce qui l'attend, pour le coup. Alors, vous voyez, nous pouvons aujourd'hui vivre avec Marie cette attente. C'est-à-dire être tendu, ou pas tendu au sens où nous aurions de la tension intérieure, mais comme attiré vers cet événement que nous allons célébrer ce soir, la résurrection de Jésus. Et cette attitude de l'attente, elle doit au fond caractériser toute notre vie chrétienne. À partir de demain, je vous annonce le programme tout de suite, hein. À partir de demain, nous commençons une autre attente. Mais comme il n'y a pas d'enseignement demain, il faut que je le dise aujourd'hui. Et parfois, les chrétiens se disent le carême et le temps pascal, c'est comme une montagne qu'on monte jusqu'à Pâques et qu'on redescend jusqu'à la Pentecôte pour glisser tranquillement vers le quotidien et la banalité du temps ordinaire. Vous rigolez, mais... Non. À partir de demain, nous commençons les 50 jours d'attente de l'Esprit-Saint. Là, nous avons vécu les 40 jours de préparation à Pâques, super. À partir de demain, nous attendons, avec Marie, la venue de l'Esprit-Saint, et nous devons nous y préparer. Il n'y a rien de plus triste que d'arriver à la Pentecôte en se disant... Oh, c'est dommage, c'est la fin du temps pascal. Demain, ce soir, nous célébrons la résurrection de Jésus. La Pentecôte, vous savez ce que nous célébrons ? La venue de l'Esprit-Saint, oui. La Pentecôte, nous célébrons notre résurrection. Le moment où nous recevons l'Esprit-Saint, qui nous fait rentrer dans une vie nouvelle. Les 50 jours du temps pascal sont là pour nous faire expérimenter cette vie nouvelle, cette attente que nous vivons. C'est l'attente d'une naissance, mes chers amis, ce n'est pas l'attente d'une naissance d'un autre, c'est l'attente de notre naissance. Ce soir, nous allons renouveler les promesses de notre baptême, notre engagement dans le baptême, ou plutôt, nous allons être renouvelés dans la vie que Dieu nous donne. Nous attendons ce soir notre naissance, notre nouvelle naissance, le renouvellement de notre naissance, de notre baptême. Et pour terminer sur ce point de l'attente, comme pour un enfant, comme pour Marie qui attend Jésus, l'attente, ça n'est pas passif. Quand on attend un enfant, il y a tout un tas de choses à faire. Intérieurement, extérieurement. Bien pour nous aussi, nous avons tout un tas de choses à vivre. Et l'attente n'est pas passif. L'attente chrétienne, c'est une attente active. On entend souvent dans les évangiles Jésus qui nous invite à veiller. Vous savez ce que ça veut dire, veiller. Veiller, c'est attendre. Attendre avec la certitude qu'il va se passer quelque chose. Le veilleur qui attend le jour, il sait que le jour va arriver. Nous aussi, nous sommes des veilleurs, des hommes, des femmes, qui attendent la venue de Jésus. Est-ce que j'attends ? Est-ce que j'attends quelque chose ? Est-ce que je suis dans l'espérance, dans la confiance qu'il va se passer quelque chose, que je vais renaître avec Jésus ? La deuxième attitude que je vous propose de vivre aujourd'hui avec Marie, c'est une attitude de prière, tout simplement. Marie est une femme de prière. Sans doute à l'Annonciation, on peut imaginer, on peut comprendre que c'est même dans la prière que cette annonce de l'ange lui est survenue. C'est peut-être plus clair aussi dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 14, où l'on nous dit que les apôtres étaient là, dans la prière, avec la Vierge Marie, à attendre la venue de l'Esprit-Saint. Marie nous fait comme rentrer dans sa prière. Marie nous soutient dans notre prière quotidienne. Ce samedi saint, aujourd'hui, est un jour de prière. C'est un jour où nous parlons dans le secret de notre cœur avec notre Père qui est au ciel. Un jour où nous écoutons surtout ce que le Seigneur nous dit sur lui-même, sur nous-mêmes. Marie est par excellence la femme de la prière. Et nous aussi, notre vie chrétienne ne peut cheminer, mûrir, avancer que si nous sommes des hommes, des femmes de prière. Oh, combien nous sommes tentés sur la prière ! Combien de fois nous avons dû décider de prier, d'être fidèles dans cette prière quotidienne, et combien de fois nous avons échoué ? Parfois, je fais des statistiques, je me dis qu'en moyenne, il faut au moins 10 fois avoir essayé de prier tous les jours avant d'y réussir. C'est ça, il y en a qui comptent et disent « Oh là, ça fait déjà plus que ça ». C'est pas grave, on continue. Cette prière fidèle, quotidienne, et j'allais même dire continuelle, c'est ce qu'a vécu Marie et ce que nous sommes invités à vivre. La prière, nous la vivons en consacrant un moment réel, concret, précis dans notre journée, en nous arrêtant pour donner ce moment au Seigneur, pour lui parler, pour l'écouter, pour que cette prière, elle vienne comme inonder tout le reste de notre vie. L'enjeu, au fond, c'est que toute notre vie soit prière. Comme le dit saint Paul, notamment dans la lettre aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux et, il y a un petit chant qui le répète, c'est pratique, priez sans cesse, priez sans cesse. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir faire 24 heures d'adoration par jour ? Non, pas, non, 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 non. 24, c'est beaucoup quand même. Mais que tout ce que nous vivons puisse être vécu finalement dans la prière. Et là, certainement, Marie l'a été. Elle a vécu son quotidien. Excusez-moi, Marie, elle a dû faire la vaisselle, elle a changé les couches de Jésus, elle est allée au puits, enfin, tout le truc, enfin, dans la prière. Mais là aussi, ne vous dites pas, Marie a été différente de vous. Marie, des trucs pénibles à faire, elle en a eu. Marie, des voisines pénibles à supporter, ça lui est arrivé, etc. Je ne sais pas si elle a eu des problèmes au travail. Est-ce qu'il y a eu des crises de couple avec Joseph ? Je pense que oui, bien sûr. Ils avaient deux caractères différents. Ils n'ont pas péché, enfin, en tout cas Marie n'a pas péché. Mais qu'il y a eu des moments où c'était pas facile. À mon avis, il y a eu un début de dispute au moins quand ils se sont rendus compte l'un et l'autre qu'ils avaient perdu Jésus. Non, je ne pense pas qu'ils se soient accusés l'un et l'autre en disant c'est de ta faute. Mais la tension, elle devait être là. Donc la prière, ça va? Et troisième attitude que je vous propose, qui est de scruter les Écritures. Si j'avais pris plus de temps pour commenter le texte de l'Annonciation, j'aurais pu vous montrer que Marie, elle connaissait très bien les textes de l'Ancien Testament. Parce qu'en réalité, l'ange Gabriel, il fait un petit jeu, il fait une espèce de chapelet de citations de l'Ancien Testament. Et il nous cite un petit peu du livre de Samuel, un petit peu du livre des Juges, un petit peu d'etc., du livre de Daniel, de la Genèse, etc. Et, bon, d'abord, si l'ange Gabriel le fait, c'est que je pense qu'il suppose, voire même qu'il sait, que Marie est capable de comprendre ce qu'il raconte, alors que nous, on ne comprend pas tout, parfois. Hein. Mais, du coup, vous voyez, ça justifie cette image qu'on a souvent, et qui est une belle image. Beaucoup de représentations, vous savez sans doute, hein, représentent Marie avec une Bible ouverte. Et je crois que c'est très juste comme image. Marie, c'était une femme qui connaissait les Écritures, qui les méditait, qui cherchait, par sa lecture de l'Ancien Testament par conséquent, à connaître Dieu. C'est aussi dans cette lecture, cette méditation de l'Écriture, qu'elle a creusé son désir, sa disponibilité à attendre le Messie, à attendre Jésus. C'est parce qu'elle connaissait les Écritures qu'elle a été disponible à l'annonce de l'ange Gabriel. Bien, cette invitation, elle est certainement là pour nous aussi. Est-ce que nous avons l'habitude de scruter les Écritures? Est-ce que nous avons l'habitude, aller au moins une fois par semaine, de prendre un passage de l'Évangile, de le méditer, de le lire, le contempler, le laisser nous parler, nous rejoindre? Dieu nous parle. Dieu nous parle comme il parle à Marie. Dieu nous parle, et le moyen privilégié qu'il a de nous parler, et peut-être le plus simple même, ce sont les Écritures. C'est sa parole, la parole de Dieu qui est une richesse incroyable, et que nous les délaissons si facilement. Alors certes, il peut paraître parfois aride de méditer les Écritures. Parfois, elles nous résistent. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, que nous ne comprenons pas du premier coup. C'est pas grave. Si nous comprenons une chose dans notre lecture de l'Écriture, et que nous avons l'impression qu'il y en a 90% qui nous échappent, est-ce que c'est grave? Pour ce petit point, cette petite chose, cette petite lumière que nous avons reçue de l'Écriture, ça vaut le coup d'avoir traversé un petit peu de désert, de s'être promené dans un monde qu'on ne connaissait pas très bien. Et petit à petit, nous nous rendrons certainement plus familiers de ce monde de l'Écriture. Avec Marie, scrutons les Écritures, peut-être aujourd'hui, ça peut être l'occasion aussi, dans notre prière, d'ouvrir notre Bible, de relire, méditer un passage, l'Annonciation que j'ai médité ce matin, ou un autre passage, par exemple, si vous le voulez, vous pourrez lire le début des Actes des Apôtres, avec l'attente de la venue de l'Esprit-Saint. Quatrième attitude que je vous propose, je l'ai intitulé comme ça, douceur et constance. Espèce d'alliage qui se fait dans la Vierge Marie entre certainement une très grande douceur et en même temps une solide constance. On aurait l'impression peut-être que ces deux mots, c'est pas des adjectifs, seraient un petit peu antinomiques. Voilà, la douceur, ce serait je me laisse faire, je me laisse un petit peu, bon, ben voilà, enfin. Douceur, mollesse, ça ne serait pas très loin l'un de l'autre finalement. Si je suis doux, je pourrais pas avancer beaucoup quand même. Et puis de l'autre côté, la constance, elle peut très vite dériver sur une forme de raideur. Je fonce et ce que les autres en pensent, ça m'est égal. Ni l'une ni l'autre de ces deux attitudes, que ce soit la mollesse ou la raideur, ne sont bonnes. Et je vous propose peut-être même simplement de faire cet exercice, d'identifier quelle serait, entre la mollesse ou la raideur, celle où je serais un peu plus tenté. Voilà, c'est un peu des traits de caractère aussi. Hein. Notre caractère, il est bon, il faut juste le mettre dans le bon sens. Mais voilà, peut-être ma tentation, c'est celle un peu de la paresse, de la mollesse, quelque chose un peu comme ça. Ou peut-être que ma tentation, c'est je fonce, je suis un peu raide, et ceux qui sont autour de moi, c'est pas très grave. Si, c'est grave. Alors, quand on contemple la Vierge Marie, on peut au contraire voir comme cet alliage entre une très grande douceur, une docilité, mais au sens le plus actif du terme. Marie, vous voyez, c'est pas une excitée. Elle parle, imaginez même le ton de voix de Marie. Une très grande douceur, certainement, dans sa voix. Une douceur qui est liée à une vraie constance, une vraie fidélité. Je vous le soulignais tout à l'heure, avec l'ange, Marie a été douce et constante. J'accueille la parole de l'ange, mais je l'accueille avec ce que je suis. Ce n'est pas une espèce de démission immédiate en disant « puisque l'ange est là, je vais écouter ce que dit l'ange ». Mais Marie intègre cette annonce de l'ange dans toute sa vie, dans la cohérence de sa vie. Marie continue à avancer avec constance sur le chemin sur lequel elle se trouve. Et en fait, c'est un petit peu tout le mystère de notre vie humaine. Le mystère de notre vie humaine, c'est celui dans lequel nous devons allier à la fois cette douceur qui nous rend disponible finalement à la grâce de Dieu qui nous traverse, avec cette constance qui fait que nous sommes vraiment nous-mêmes. Avec notre personnalité, avec nos talents, avec notre charisme, avec tout ce que nous sommes. L'enjeu est à la fois de nous laisser traverser par la grâce de Dieu qui nous adoucit. Et qui ne va pas aller contre ce que nous sommes, qui au contraire va nous permettre d'aller jusqu'au bout de la réalisation de notre vocation, de notre personnalité, de ce que nous sommes. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Et ce binôme, vous voyez, entre la douceur et la constance, est certainement une petite boussole que nous pouvons avoir pour nous-mêmes réaliser cet alliage que la Vierge Marie a réalisé en elle. Alors, voilà, je vous disais, identifier cette tentation, peut-être du coup symétriquement, identifier la grâce à demander. Seigneur, donne-moi cette grâce d'une vraie douceur dans ma personne, dans mes relations. Ou peut-être pour d'autres, la grâce à demander. Seigneur, mais voilà, donne-moi la grâce d'une vraie constance qui me permet de rester cohérent avec ce que je suis, avec ce qui m'anime, avec ta présence en moi. Enfin, dernière attitude que je vous propose, c'est simplement l'amour de la Vierge Marie. L'amour de Marie. Les réflexions que je vous ai proposées ce matin, j'espère, peuvent nous aider à renouveler notre relation avec la Vierge Marie. Marie qui est celle qui nous prend par la main pour nous conduire à Jésus. Marie est celle qui est là aujourd'hui avec nous, en ce samedi saint, pour nous préparer à vivre la naissance de Jésus en nous, notre renaissance, l'accueil de la résurrection. Plus nous aimons Marie, plus nous la prenons dans notre vie, plus nous nous rapprochons de Jésus. Et plus nous avançons avec Jésus, je le crois vraiment, plus la Vierge Marie s'impose à nous, mais s'impose pas au sens d'une pression, mais elle vient comme naturellement prendre une place dans notre vie, comme ce compagnon ordinaire, ce compagnon de chaque instant, qui nous porte même vers Jésus. Nous avons chacun notre relation avec Marie, et peut-être qu'aujourd'hui nous pouvons l'approfondir ou la renouveler par la grâce de Dieu. Voilà donc pour ce matin, à partir de cette belle figure de la Vierge Marie qui reçoit l'annonce de l'ange Gabriel, l'annonce de la naissance de Jésus. Je vous rappelle simplement donc ces cinq attitudes que je vous propose encore une fois. N'hésitez pas à en choisir une en particulier qui pourrait vous guider au long de cette matinée. Avec Marie, cette attente active de la résurrection de Jésus, être dans l'attente. Avec Marie, être des hommes et des femmes de prière, deuxième attitude. Une troisième attitude, avec Marie, scruter les Écritures, la parole de Dieu. Quatrième attitude, avec Marie, vivre, être des hommes et des femmes de douceur et de constance. Enfin, une cinquième attitude, cinquième clé, l'amour de la Vierge Marie qui nous conduit à Jésus.